C'est la deuxième heure de ce 1224e Sweet Home Chicago. Et au cours de cette deuxième heure, c'est le pianiste chanteur du boogie-woogie de blues et de jazz, Nirek Mokhar, jeune virtuose, enfant précoce du piano, qui sera interviewé. Nous découvrirons un très jeune homme passionné, déjà mû par une belle maturité. À seulement 21 ans, Nirek Mokhar a sorti 5 albums, dont le premier à l'âge de 13 ans, tous empreints de grands talents et entourés de belles pointures. C'est avec flamme qu'il évoque ses tout débuts au Paris Boogie Speakeasy, le rôle prédominant de son père et de quelques spécialistes du boogie-woogie comme Jean-Paul Amourou, Jean-Pierre Bertrand et Jean-Baptiste Franc pour son engagement à vie avec le piano. On parlera également du caveau de la Huchette, de ses expériences scéniques dans de nombreux pays, seul ou accompagné de ses boogie messengers, Stan Noubar-Pacha à la guitare, Claude Bro au saxophone, Nicolas Duboucher à la contrebasse, Guillaume Nouveau à la batterie et cette magnifique collaboration avec le flamboyant sax Gordon Biddle. Nous écouterons plusieurs titres de son dernier album Back to Basics, sorti fin 2023 avec les Boogie Messengers, dans lequel figure Sax Gordon. Nirek Mokhar, un talent à suivre de près. Voici cette interview. Je suis au téléphone avec Nirek Mokhar. Bonjour Nirek.
Salut Marc.
Très heureux de te recevoir ici dans le 666, dans Sweet Home Chicago. Nirek Mokhar, prodige du boogie-woogie, c'est comme ça qu'on te présente généralement ?
Jusqu'à présent, oui. Maintenant, j'ai 21 ans, bientôt 22, donc de moins en moins. Mais il n'y a pas très longtemps, oui, encore.
Alors prodige, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enfant prodige, c'est ça un petit peu l'idée. C'est que en fait, tu es tombé dans la marmite du boogie-woogie il y a déjà pas mal d'années finalement. À 21 ans seulement, tu cumules plusieurs années d'enregistrement et de carrière.
Bah en fait, je suis tombé effectivement dans cette musique quand j'avais 4-5 ans, donc vraiment ouais. Quand j'étais tout petit, c'est quelque chose qui est en moi en fait.
Alors ce que j'ai vu, c'est que tout vient en fait de ton papa qui travaillait au Paris Boogie Speakeasy, c'est bien ça ?
Alors en fait, pour t'expliquer vraiment l'histoire, mon papa travaillait avec un monsieur dans une boîte d'informatique et ce monsieur est fan de jazz. Notamment de boogie-woogie, surtout de blues, de musique de Orléans, etc.
Ouais.
Et en fait, il avait une cave dans son entreprise et il s'est dit, bon, bah, je vais mettre un bar à whisky, un bar à cocktail. Il avait plein de pianos parce que sa maman lui a légué quand elle est décédée et sa maman était prof de piano, donc voilà. Et vu qu'il adorait le boogie, il s'est dit, bon, bah, je vais mettre tous ces pianos-là dans cette cave et je vais inviter quelques copains, etc. Et de bouche à oreille, etc., bah, il y a eu Jean-Paul Amourou et Jean-Pierre Bertrand qui étaient là au tout début, qui faisaient des duos de piano boogie, etc. Et mon père, je pense, au bout de quelques soirées, s'est dit, je vais amener mon fils parce que mon père allait là-bas parce qu'il était ami avec son patron et surtout il filmait toutes les soirées en fait. Et
d'accord.
Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il s'est dit, je vais amener mon fils, peut-être que ça lui plaira. Et il faut reconnaître que c'est quand même atypique de se dire, je vais amener un enfant de 4-5 ans
ah, effectivement,
dans un endroit où ça joue très tard quand même. Les soirées démarraient à 18-19 heures et se terminaient à l'aube avec tous les musiciens qui jouaient. C'était quand même un milieu qui était super, mais disons vraiment le milieu du speakeasy, quoi, avec des musiciens, plein de filles, pas mal d'alcool. Donc c'était vraiment, pour un enfant de mon âge, c'est quand même assez atypique. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, c'est incroyable d'avoir pu vivre ça, quoi, en fait.
J'imagine bien, dans un environnement qu'on pourrait qualifier de très adulte, c'est bien ça.
Exactement.
Quand tu parles de présence de filles.
Il n'y avait pas d'enfants à part moi, quoi. En fait, j'y suis allé une fois, j'ai adoré, parce que j'ai entendu des pianistes de boogie jouer pour la première fois.
Évidemment.
Et à partir de ce moment-là, j'y suis allé à chaque fois, mon père m'a amené, et surtout, parfois le lendemain j'avais école et j'allais pas à l'école parce que j'étais trop fatigué parce qu'on rentrait trop tard, quoi.
Ouais. Donc c'est comme ça que tu te confrontes au piano. Et alors ce que j'ai lu quelque part, c'est que tu n'as pas commencé à jouer tout de suite, c'est en regardant Jean-Paul Amourou, Jean-Pierre Bertrand et tous les autres, en observant leurs doigts, c'est comme ça que de façon autodidacte tu t'es mis toi-même au piano, Nirek.
Alors en fait pendant très longtemps quand j'étais tout petit je me mettais entre les deux pianos et je regardais les pianistes jouer, je me baladais, etc. Et c'est vrai que quand j'étais tout petit, c'était un peu dur pour moi d'apprendre vraiment tout seul. Donc j'écoutais vachement, j'observais, etc. Et vu qu'il y avait ces pianos-là qui étaient là pendant toute la semaine et que mon papa travaillait là-bas, parfois j'y allais et pendant 5 heures, j'essayais de jouer 3 notes jusqu'à que mes trois notes soient vraiment le son que j'ai envie, etc. Mais disons qu'au tout début, c'était vraiment difficile de me mettre dans le bain, parce qu'en fait, c'est pas facile. C'est quand même beaucoup de boulot.
C'est ça, des débuts, on va dire, laborieux. Mais alors, est-ce que quelqu'un, à ce moment-là, a commencé à t'expliquer comment poser tes doigts, comment enchaîner, comment travailler, alors, par exemple, l'indépendance entre la main gauche et la main droite? Comment ça s'est passé exactement?
Alors, en fait, déjà, ce monsieur... qui est fan de jazz, Yves Riquet, connaissait quelques bases, vraiment au minimum syndical, mais il m'a transmis ça.
D'accord.
Ensuite, Jean-Paul Amouroux me disait, fiston, faut que t'écoutes des disques, il y a que comme ça que t'apprendras. Et Jean-Pierre Bertrand, parfois, me prenait sur ses genoux, et il me montrait les premières bases de cette musique-là. Ensuite, quelques années après, il y a le pianiste de jazz, swing et de stride, Jean-Baptiste Franck, qui a vraiment pris la relève de Jean-Paul et Jean-Pierre, dans le sens où il m'a montré quelque chose de totalement différent. Il m'a vraiment montré, il m'a dit, je vais t'apprendre à coordonner tes deux mains, etc.
D'accord.
Donc, il m'a donné quelques cours. Et après, j'ai appris quelques morceaux avec lui. Et après, j'ai tout relevé en écoutant. C'est comme ça que je pense que beaucoup de jazzman font, et de bluesman aussi. Personnellement, je pense que c'est la meilleure école d'écouter.
Et alors, Nirek, quel était le regard de ton papa à ce moment-là, au moment où ces conseils-là arrivaient sur tes jeunes doigts, et quand on commençait à constater autour de toi que les progrès venaient? Est-ce que ton père avait des espoirs de carrière derrière tes débuts, déjà?
Je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est drôle comme question, parce qu'on me pose pas souvent cette question. Je sais pas trop, je pense qu'il était content que je joue du piano. Mmh. Après, ça dépend des gens, mais je pense qu'il, avec ma mère, il disait quand même, ma mère, mon père et même ma famille en général se disaient, le métier de musicien, c'est pas forcément facile tous les jours. Alors, je sais pas s'ils se sont dit directement, ça va être un métier, ou s'ils se sont dit, on verra bien par la suite ce que ça va, ce que ça va devenir, tu vois.
Et alors, justement, dans ton esprit à cette époque-là, est-ce que c'était déjà une découverte, un jeu, une passion, une envie d'en faire un métier?
C'est vraiment, c'est vraiment un coup de foudre pour moi de découvrir cette musique. J'avais ça en moi, et je pense aujourd'hui, avec du recul, que j'ai toujours su que je voulais être pianiste. C'est pas un secret, mais c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, je voulais moins le voir, peut-être, parce que j'avais toujours des gens qui me disaient, justement, fais attention, la musique, c'est difficile, parfois, aussi, pour avoir une vie de famille, si t'as envie d'avoir une vie de famille, ça sera difficile. Plein de trucs qu'on me disait, mais en fait, même encore maintenant, j'ai que 21 ans, et j'ai le temps pour, justement, si je veux avoir une famille, tout ça, j'y pense pas aujourd'hui, et encore moins à l'époque, donc c'est vrai qu'on m'a beaucoup mis en garde par rapport à ça, etc. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'est ma voix, quoi, en fait.
Et alors, c'était ta voix, c'est ta passion, mais est-ce que tu penses pas maintenant, a posteriori, tu as 21 ans, on dirait que tu es plus que majeur, tu peux même entrer dans des clubs aux États-Unis maintenant, on est d'accord. Est-ce que tu penses pas qu'à cette époque-là, ça t'aurait empêché de faire d'autres choses que font tout simplement les enfants de ton âge, c'est-à-dire jouer, par exemple, mais jouer pas de la musique, mais à toutes sortes d'autres choses?
En fait... Non, ça m'a pas vraiment empêché, parce que j'ai toujours une vie où, en fait, j'ai mes copains de mon âge, j'ai plein de potes qui ont mon âge, ou plus ou moins mon âge, et j'ai plein de potes, par contre, qui ont l'âge de mon père ou de ma mère, ou... En fait, j'ai un peu des potes de tout âge, et c'est vrai que moi, ça va, je le vis très bien, mais il y a plein de gens qui me disent, mais ta vie, ça doit être super bizarre, parce que t'as des potes qui ont 20 ans, t'as des potes qui en ont 75, t'as des potes qui en ont 50, enfin, beaucoup, les gens se demandent beaucoup comment ma vie se passe, en fait, parce que c'est pas une vie typique, quoi, voilà.
Je crois savoir qui c'est, ton pote de 75 ans. Ça serait pas Claude Brault, le saxophoniste, par hasard?
Il a 74.
Ah oui, oui.
74 ans. Mais par exemple, Claude, on s'est rencontré il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'était lors d'un caveau de la Huchette où j'allais la première fois avec mon père, cet endroit. Et c'était justement Jean-Paul Amouroux qui devait jouer, je pense, avec, je sais plus, peut-être Simon Boyer ou Stéphane Roger. Mmh. Je me souviens plus, à la batterie. Et Claude, directement, comme il est un être humain exceptionnel, m'a pris sous son aile. Il m'a dit, viens jouer un morceau, etc. Enfin, on s'est entendu directement et on s'est jamais quitté depuis. Voilà, c'est le seul membre de mon groupe pour l'instant, parce qu'il y a eu plusieurs musiciens qui ont défilé, etc. Et c'est le seul qui est là depuis le début, qui a pas bougé.
Oui, alors ça, c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre. De toute façon, c'est vrai que dans Sweet Home Chicago, les interviews, on en arrive souvent à parler de ça. On a forcément des rencontres heureuses parce que elles nous permettent de découvrir un tel ou un tel et puis de nous enrichir, tout simplement. Les rencontres, c'est quelque chose de particulier, de spécial. On s'en rend compte avec ton papa. S'il n'y avait pas eu cette amitié entre ton papa et son collègue, finalement, qu'est-ce qui ça serait passé pour Nirek Mokhtar? On serait pas en train de parler en ce moment. Tu ferais complètement autre chose, peut-être.
Exactement. En fait, c'est ça qui fait que la vie est belle. c'est qu'on sait pas ce qui va nous arriver. Bon, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais c'est le jeu et c'est super, je trouve.
Thank you.
Alors, Irek Mokar, on peut parler de tes débuts véritablement scéniques en tant qu'autodidacte, en tant que concertiste, vers 10 ans, 11 ans, c'est ça à peu près?
C'est ça. En fait, au tout début, avant mes débuts vraiment scéniques en public, justement dans cet endroit qui s'appelait le Paris Boogie Speakeasy,
oui.
Vu que c'était un endroit qui était privé quand même, j'avais le droit de jouer un peu quand je voulais, j'étais un peu la mascotte de cet endroit. Et je pense que je le suis encore, même si les soirées là-bas sont terminées et que c'est fini depuis plusieurs années maintenant. Oui, je pense que j'étais un peu considéré comme la mascotte parce que je connaissais tout le monde, tous les gens qui venaient, tous les gens qui partaient. J'étais un peu le petit chouchou de plein de musiciens là-bas, quoi. Donc souvent, ils me disaient « Allez, viens jouer un peu avec nous », etc. Et c'était vachement motivant parce que même pour eux, je pense que c'était vraiment sympa de voir un jeune pianiste, enfin même un petit garçon à l'époque, quoi.
Mais oui.
Essayer de faire les premières basses, les premiers riffs, etc. Ça devait être super parce que c'est rare quand même que, surtout de notre époque, les gens écoutent cette musique, etc. Et surtout à mon âge, quoi.
Mais en fait, à 4-5 ans, je sais pas si on a des styles véritablement de prédilection. Ça correspond à la musique qu'on entend tout autour de soi, quelle que soit la mode, quel que soit l'entourage médiatique. Enfin, vous très bien devenir, tu le prouves toi-même, on peut devenir aussi concertiste classique à ce jeune âge-là. Il y a aucun souci. Tout est une question d'éducation, peut-être, et de rencontre, je le disais tout à l'heure.
Exactement. Je pense que tu as raison.
Alors, ensuite, tu parlais de la création de ce groupe, les Boogie Messengers, qui sont actuellement composés, je crois savoir, de Nicolas Duboucher, Guillaume Nouveau à la batterie, Stan Noubar-Pacha à la guitare, et puis Claude Bro au saxophonie. Il y a également Bruno Rousselet qui intervient à la contrebasse de temps à autre. J'ai vu sur les prochaines dates. On peut dire quand même que le gros de la troupe est là. Il y a une stabilité dans le line-up des Boogie Messengers, Nirek.
Oui, il y a une stabilité. Si tu veux que je te raconte toute l'histoire,
Allons-y.
Je peux le faire. Alors en fait, au tout début, vraiment quand j'ai démarré, c'était vraiment... au début, je faisais des trucs tout seul. Après, voilà, que Claude Brou est arrivé très vite dans l'histoire, etc. Et les premiers Boogie Messengers qui m'ont accompagné et qui m'ont beaucoup apporté, il faut que je le reconnaisse, c'était donc Simon Boyer à la batterie, Thibaut Chopin à la contrebasse, il y avait Nicolas Pellier à la guitare aussi.
Mmh.
Donc eux, c'était avec Claude Brou, du coup, c'était vraiment le premier groupe. Et ensuite, c'est ça que je trouve bien aussi dans la musique. J'ai eu d'autres envies, envie de prendre d'autres directions. Aussi, peut-être le fait qu'ils étaient là dès le début, ça a fait que mon caractère s'est forgé, ma personnalité s'est affirmée. Et du coup, j'avais sûrement besoin de plus d'envol et de liberté. Et du coup, je pense que les gens avec qui je joue aujourd'hui, Guillaume Nouveau, Stan Noubar-Pacha, Nicolas Duboucher, etc., ce que je trouve super avec ces gens-là, c'est que le rôle de sideman est vraiment joué dans le sens où je leur demande plein de conseils et plein d'avis.
Mmh.
Et je trancherai toujours moi. C'est ça qui fait un peu la différence aujourd'hui. C'est que mon premier groupe, je pense que ils m'ont vraiment poussé vers le haut dans le sens où ils m'ont fait décoller, quoi. Mais d'un côté, vu que j'étais encore jeune, j'avais ma personnalité qui était beaucoup moins affirmée, etc. Et grâce à eux, je pense aujourd'hui, je sais vraiment ce que je veux, etc. Et musicalement aussi, les musiciens qui jouent aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, je pense que tous les gens avec qui j'ai joué depuis le départ m'ont tous apporté quelque chose.
Voilà, la formation, effectivement, ta formation de musicien, elle s'est pas faite que artistiquement parlant. Elle s'est faite, je crois le comprendre au fil des rencontres. Et justement, avec tous ces conseils qu'on t'a donnés, avec maintenant, à 21 ans seulement, Nirek, une belle maturité, j'ai l'impression.
Bah, en fait, maintenant, ça fait vraiment très longtemps que... Très longtemps. Ça me fait rire de dire ça parce que je viens de dire que j'ai 21 ans. mais ça fait quand même, oui, plusieurs années que je gère mon groupe. Et bien sûr, quand je parle de mes débuts, tout début, par exemple, les musiciens qui étaient dans mon premier Boogie Messenger, enfin, qui étaient les premiers à m'accompagner, m'ont beaucoup, beaucoup aidé à m'expliquer, ouais, les contrats, c'est comme ça que ça marche. T'as le guzo, t'as le contrat de session, t'as les billets de train, c'est comme ça. Enfin, en fait, ils m'ont beaucoup aidé, etc. Et au fil du temps, je pense que j'ai regardé, j'ai écouté, etc. Et maintenant, je suis tout seul depuis plusieurs années. Mais d'un côté, du coup, pour moi, c'est comme si j'ai profité de leurs conseils. Et eux, en retour, en fait, grâce à moi, ils ont pu jouer dans plein de concerts différents. Donc pour moi, c'est un échange de bons procédés.
Évidemment, oui. Bah oui, ça s'appelle collaborer, ça s'appelle jouer ensemble. Ça s'appelle peut-être aussi l'amitié, quelque part, non? Parfois.
Exactement. Exactement, parce que, je trouve vraiment que, en tout cas pour moi, on y a tous trouvé notre compte à l'époque, dans le sens où eux, ils m'ont montré plein de trucs, aidé sur plein de choses, mais du coup, eux, ils ont pu jouer dans mon groupe et grâce à moi, du coup, dans plusieurs endroits où ils avaient sûrement déjà joué, mais une fois de plus, tu vois ce que je veux
voilà,
dire.
Voilà, oui, bien sûr. J'ai une question à propos du nom, les Boogie Messengers. Est-ce que ça a un rapport avec les Jazz Messengers de Art Blakey?
Oui, sauf que c'est Boogie, quoi.
Voilà, bien sûr. Ouais. Et qui a eu l'idée du nom de ce groupe?
dans mon souvenir, c'est Simon Boyer qui m'avait suggéré ce nom et je trouvais que c'était super.
D'accord.
Donc voilà.
Très bien. Simon Boyer qui joue toujours avec Stan Ubar Pacha par ailleurs dans les French Blues All Stars, un groupe que tu connais forcément. Tu les as vus sur scène, eux?
Ouais, j'ai déjà vu et c'est vrai que c'est vraiment la fine équipe du blues en France, quoi.
Exactement.
Même s'il y en a d'autres qui sont super, par exemple, je pense à Nico Duportal ou à d'autres.
Ouais.
Il y a plein de bluesmen super, mais c'est vrai que le French Blues All Star, bah, c'est un super All Star, quoi.
Thank you.
Derek Mokar, si on revient un petit peu sur tes influences, c'est pas forcément tes débuts, mais en tout cas tes découvertes au fil de l'eau. Quels sont tes pianistes de prédilection? On va découper cette question en deux. D'abord, côté US, les pionniers, les virtuoses, je pense à Albert Ammons, par exemple, que tu reprends, mais il y en a sûrement d'autres.
Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Tout début, quand j'ai découvert cette musique, j'ai vraiment flashé sur Albert Ammons, Pete Johnson, Pine Top Smith, Medioc Lewis, les pianistes de Boogie, de ces années-là, quoi. Ceux qui, pour moi...
les créateurs, finalement.
Voilà, exactement, les créateurs. Après, quelques temps après, j'en ai entendu d'autres. Et du coup, j'ai vachement plus ouvert mon oreille à écouter plein d'autres pianistes. J'ai découvert Amos Milburn, Otis Pan, etc.
Ouais.
Donc ça, j'ai trouvé ça super aussi. Et maintenant, et depuis assez longtemps, j'écoute pas mal de pianistes de jazz aussi. Donc voilà, j'ai pas un pianiste de prédilection, ou j'en ai pas deux, j'en ai plein en fait. Parce que je pense que la musique, c'est un peu une nourriture. D'ailleurs, j'écoute plein de trucs vraiment différents.
Ça c'est intéressant, ça va faire partie d'une autre question tout à l'heure, Nirek, par rapport à tes autres influences que le Boogie Woogie. Mais je voulais le deuxième volet quand même, qu'on aborde le deuxième volet de cette question sur tes pianistes de prédilection. De ce côté-ci de l'Atlantique, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, qui sont les artistes que tu as beaucoup écoutés pour soit t'en inspirer, soit t'en nourrir, comme tu disais?
Mais comme je te l'ai dit, donc logiquement, ceux que j'ai beaucoup écoutés au début, c'est ceux qui m'ont un peu...
Voilà, Jean-Paul Amouroux, Jean-Pierre Bertrand.
Exactement. Après, dans les autres pianistes, un pianiste vivant que j'aime beaucoup, Monty Alexander, je trouve que c'est super,
ouais.
Par exemple. Après, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, honnêtement, à écouter des pianistes qui sont morts maintenant.
Mmh.
J'écoute pas beaucoup de pianistes qui sont en vie, même si c'est toujours un plaisir, par exemple, d'entendre des amis et des collègues, par exemple, quand on se retrouve sur des festivals, etc. C'est toujours super. Je pense à, je sais pas, par exemple, quand je croise Franck Mouchaleux ou Julien Brunto ou Louis Coloma, ou ça, c'est des pianistes quand on se retrouve sur un festival et que je les entends faire leur partie, enfin leur fête, c'est toujours agréable de les entendre et de se retrouver.
Ouais. J'avais d'autres noms à te soumettre également, un Belge et deux Allemands, Renaud Patini, Axel Zwingenberger et puis Stéphane Ulbricht.
D'accord.
Est-ce que ce sont des gens que tu écoutes, que tu as écouté à un moment donné?
Alors, que j'ai écouté, oui, je les ai écoutés parce que, de manière simple, on s'est croisés plusieurs fois sur plein de festivals, etc.
Ouais.
Après, en toute honnêteté, si je te dis la vérité, à part Axel, où j'ai vraiment, pendant une petite période, écouté ses disques, et même quelques vidéos YouTube, etc., les autres, je me suis pas plongé dans leurs albums. Par
D'accord.
contre, c'est toujours un plaisir de pouvoir les écouter quand on se retrouve ou quoi. Mais d'instinct, quand je vais écouter de la musique, c'est pas ces noms-là que je vais mettre sur Spotify, quoi, par exemple.
D'accord. Mirek, j'ai une question par rapport à ton jeu, main gauche, main droite. C'est toujours la question qu'on se pose quand on n'est pas pianiste, c'est mon cas. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le cerveau pour avoir cette indépendance-là? Je suppose que c'est un peu la même quand on est batteur, à ce moment-là, il en faut quatre. Mais là, ta main gauche, par exemple, en Boogie Woogie, qui va assurer le drive, et puis la main droite qui va partir virevolter dans tous les sens, comme le font tous les pianistes de Boogie Woogie. Comment ça se passe dans ta tête, dans votre tête, à vous, tous ces virtuoses-là? Est-ce que les deux cerveaux gauche et droite sont véritablement fermés l'un par rapport à l'autre?
Je sais pas, moi, de toute façon, j'arrive devant un piano et je joue, quoi, en fait.
Ouais, alors c'est inexplicable, en fait. C'est la pratique qui fait qu'on y arrive, non?
Ouais, maintenant en toute modestie, quand je me mets devant un piano, voilà, ça part et je réfléchis pas trop, quoi. Franchement, je sais pas comment expliquer. Maintenant et depuis toujours, c'est en moi et je saurais pas comment expliquer vraiment.
Ouais,
c'est comme Claude Brault, je pense, tu lui donnes un sax, il souffle dedans et voilà, c'est super. Guillaume, tu lui files une batterie, il tape et c'est super. Et Stan, il a une guitare, c'est super. Il a une contrebasse, ça va sonner. Je pense que quand t'es un bon musicien, de toute façon, tu te poses pas de questions et tu joues, quoi, en fait.
Mais quand même, Nirek, tu dis ça, mais j'ai aperçu sur certaines vidéos le fait que tu donnes des cours, que tu donnes des conseils, tu enseignes déjà le piano, non?
Oui, en ce moment même, je me suis un peu calmé par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une période où j'ai eu pas mal d'élèves, ça a duré quelques mois parce que j'avais pas mal de temps devant moi, j'avais proposé à pas mal de gens, j'ai pas forcé, mais j'ai dit voilà, si ça vous intéresse, etc., je peux donner des cours, etc. Et surtout, il y a quelques personnes qui m'ont demandé... on cherche justement à savoir comment on peut vraiment jouer le blues de manière assez simple, en fait.
Ouais.
Juste avec trois accords, etc. Donc souvent, j'expliquais exactement ce que vous recherchez, parce que si vous cherchez vraiment de la technique, etc., je suis pas la bonne personne, parce que personnellement, j'ai aucune technique. J'ai aucune technique, voilà.
Quand tu dis j'ai aucune technique, pour les gens qui ne pratiquent pas la musique, ça paraît juste impensable. Ça veut dire que tu ne lis pas la musique ou tu peux ne pas la lire?
je lis pas la musique et je pense que, par exemple, je sais faire une gamme, mais disons que y a, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pianistes qui savent faire une gamme beaucoup mieux que moi, quoi.
Alors, on va parler aussi de tes autres influences que le boogie-woogie. Tu évoquais le blues, bien sûr, mais dans ton dernier album, dont on va parler tout à l'heure, notamment Back to Basics, il y a, puis également, pardon, dans le live In Souston de 2022, qui est encore tout récent, il y a aussi des influences d'autres styles, quoi, radicalement différents. Peut-être qu'ils sont tous reliés, d'ailleurs. Par exemple, le reggae, par exemple, le rock. Enfin, il y a des choses comme ça qui font que on peut pas dire que tu sois réellement un pianiste stricto sensu de boogie-woogie et que ça.
Alors, c'est vrai que, justement, là, en fait, plus mon caractère s'affirme et ma personnalité au fil des années, plus je sais ce que je veux, plus je sais où j'ai envie d'aller, etc. Et c'est vrai que au tout début, franchement, je pense que j'étais un pur pianiste de boogie.
Ouais.
Mais il y a plein de musiques qui me plaisaient. Et moi, franchement, j'ai toujours envie de faire ce que j'aime. Donc, par exemple, le rock'n'roll, pour moi, c'est vraiment une musique cousine, quoi, du boogie. Donc, je me suis dit, c'est vraiment dans mes cordes, j'adore ça. Je joue et voilà, ça va marcher. Pareil pour le blues. Pareil pour, par exemple, Hot Bread sur le Back to Basics. Ça a une influence de la musique de la Nouvelle-Orléans et un peu de Bob Dylan. Et je trouve que c'était vraiment approprié à ce que j'aime, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire une compo un peu dans ce style-là. What I Drink, un peu en hommage à Ray Charles. Donc, en fait, cet album Back to Basics, pour moi, c'était vraiment voilà, un retour aux sources de tout ce que j'aime. Même aujourd'hui, avec quelques mois de recul sur l'album, je pense que c'est, pour moi, c'est le meilleur album que j'ai dû enregistrer parce que c'est que des compos et ça reflète tout ce que j'aime en fait.
Effectivement, composition Nirek Mokhtar sur la quasi-totalité de l'album, à l'exception d'un titre signé Seth Gordon Biddle, mais qui figure sur le disque avec toi. Et donc, à contrario de ce Live in Souston, où c'était uniquement des reprises et dans lesquelles tu interprètes un reggae à un moment donné, ou un morceau façon reggae.
Oui, oui, c'est un standard de jazz que j'ai joué en reggae parce que, voilà, reggae, c'est pareil, c'est une musique que j'adore et donc je me dis, faut pas trop se mettre de barrières et faut vraiment faire ce qu'on aime, quoi, je pense.
C'est vrai, alors tout à fait. On va parler de tes expériences scéniques parce que, bien sûr, en France, on aurait pu, si on l'avait fait tous, t'applaudir dans plein d'endroits en France, que ce soit dans les clubs, tu as cité le caveau de la Huchette, mais dans tout plein de festivals, mais également dans le reste de l'Europe, Espagne, Allemagne, Suisse, Belgique, Hongrie, Portugal, Angleterre, Norvège, également Chypre, et puis les États-Unis. Je voulais savoir particulièrement ce que tu en as retiré, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que le fait d'avoir joué dans tous ces pays-là, ça t'a formé d'une manière ou d'une autre, Nirek?
Oui, forcément, mais en fait, en dehors de la musique, ce qui me passionne, voyager, j'adore ça. Ça fait partie d'une de mes passions aussi. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui aiment bien voyager, certains aiment pas. Voilà, moi, ça fait partie aussi de mon plaisir dans l'ensemble de ce métier, de pouvoir voilà, jouer de la musique, voyager, découvrir des paysages différents, rencontrer des gens de cultures différentes. Aussi, je suis un bon épicurien, donc j'aime bien manger et déguster des bons vins, donc...
Ça se voit pas. Voilà, donc... ça se voit pas, Nirek.
Bon, bah, voilà, en fait, oui, ça, d'un côté, c'est sûr, ça m'a forgé, parce que ça m'a aidé aussi pour mon autonomie, parce que j'ai commencé, au tout début, c'est pareil, mon père venait avec moi, quand j'étais au tout début de notre carrière, entre guillemets, professionnelle.
Ben oui.
Donc, disons qu'entre 2013 et peut-être 2016, les trois premières années, il est venu sur les festivals qui étaient loin, et voilà, genre, en 2016, j'avais 14 ans et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre mon envol. Je pense que le dernier endroit où il est venu avec moi, ça devait être en Hongrie.
D'accord.
Pour un festival de boogie. Et après, j'ai pris mon envol et je me suis déplacé tout seul, de plus en plus. Mais en fait, en général, les voyages que j'ai faits comme ça en Europe, ça a été rarement avec mes boogie messengers. C'était très souvent en solo.
Mmh.
J'étais invité dans des festivals de boogie ou de blues en tant que pianiste soliste. Et après, souvent, si j'avais le choix ou non de vouloir jouer avec la rythmique qui était sur place, c'est un peu comme je voulais. Et c'est arrivé, par contre, quelques fois où qu'on parte avec les boogie messengers, dont récemment à Chypre. Très récemment, on est allé jouer à Chypre dans un super domaine viticole et dans un hôtel avec un super resto gastronomique. Donc, c'était super.
Génial. Ouais.
Le patron de l'hôtel est fan de jazz. Donc, tous les mois, il prend un groupe de jazz ou de blues. Et voilà, c'était nous au mois d'octobre. Après, on a joué en Belgique, en Suisse, pas mal aussi avec les boogie messengers. On est allé en Autriche aussi. Mais disons que voilà, la majorité de ce que j'ai fait à l'étranger, quand même, c'était plutôt en solo. Même si quelques fois, ils ont parté à l'aventure avec moi.
Et justement, le fait de pouvoir avoir un instrument qui te permette de voyager et de jouer en solo, est-ce que ça facilite pas encore davantage les rencontres? Parce que c'est vrai que quand on joue en quintette, on a peut-être davantage la propension à communiquer à l'intérieur du groupe et puis à oublier une des parties que tu signalais tout à l'heure du plaisir de voyager, c'est de faire des rencontres finalement. Quand on est tout seul, c'est plus facile peut-être?
Plus facile, je sais pas, parce qu'en fait, que je sois tout seul ou que je parte avec eux, on fera des rencontres et ça sera super dans tous les cas. Mais je le fais en fait assez rarement d'aller jouer en solo, en fait, même de moins en moins.
Mmh.
Pour la raison simple que moi, la manière dont je préfère jouer cette musique, c'est avec mon orchestre, parce que c'est un vrai partage sur scène avec mon noyau dur et chacun sait ce qu'il a à faire, on est ensemble et voilà. Donc je le fais un petit peu de temps en temps, mais souvent, c'est 2-3 fois par an et parfois moins. Donc, c'est vraiment assez rare. Par contre, à chaque fois, c'est super parce que du coup, c'est les 2 ou 3 fois où je me dis, allez, je pars tout seul, c'est cool. Je suis pianiste comme un autre. Enfin, avec d'autres pianistes, enfin, c'est bon. C'est vraiment le concept des festivals de boogie, de souvent avoir plein de pianistes qui viennent de plein de pays différents. Et
ouais,
c'est le moment où on se retrouve. Souvent.
Que ce soit à la Roquebrou ou à Beuvron-en-Auge ou ailleurs, enfin, il y a tout plein d'endroits en Europe où c'est permis. Alors, on va revenir sur ta discographie. On évoquait tout à l'heure ton jeune âge et c'est vrai que le premier album en 2015, tu avais 13 ans, c'est Nirek Mokhtar Plays Boogie Woogie. En 2017, Born to Boogie. En 2020, Be My Guest. Live in Souston en 2022. Et puis là, en fin 2023, Back to Basics chez Black and Blue, album que tu qualifies de plus abouti que les autres. Je voulais savoir par rapport à Back to Basics, justement, la signification principalement du titre, Nirek.
Bah, c'est vraiment, comme je le disais un peu plus tôt dans l'interview, c'est retour aux sources de tout ce que j'aime, en fait.
Ouais.
C'est aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Le titre est une explication à lui-même, en fait.
La participation de Sax Gordon à cet album et puis à tout plein de concerts, comment est-ce que tu qualifies ça, la rencontre avec ce saxophoniste phénoménal qu'est Sax Gordon?
Bah, c'est super de bosser avec Sax Gordon parce que, franchement, c'est vraiment, c'est un mec déjà qui joue super. faut le reconnaître.
Évidemment,
ouais. C'est vraiment facile à vivre. C'est vraiment un bonheur de travailler avec lui, quoi. On n'a jamais eu de soucis. Il n'y a toujours que des solutions. Enfin, c'est vraiment agréable, quoi.
Ouais, quelqu'un de très positif, c'est ça, en fait.
Quelqu'un de très positif. Par exemple, Sash Gordon, il a quand même son nom qui fait que plein de fois, il est leader, mais la qualité qu'il a, c'est que pour un leader, c'est un excellent sideman, je trouve.
Et il est capable, effectivement, de s'effacer, hein, pour l'avoir vu dans d'autres circonstances. Une fois que le solo est fini, il rend les clés au pianiste ou au guitariste avec qui il joue, effectivement. Le répertoire de l'album et puis la setlist sur scène, quel est le rapport entre les deux? Comment se construit une setlist? Est-ce que tu pioches dans tes albums différents? Est-ce que tu discutes avec tes musiciens pour savoir ce que vous allez jouer? Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que, voilà, là je reviens du coup à... Je vais reparler un peu de mon groupe. Maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on joue qu'en fait, on fait plus de cette liste parce qu'on sait à peu près, on sait à peu près comment ça va se passer et en fait, on se pose plus de questions parce que c'était tellement rodé que voilà, il y a plus de cette liste. Après, voilà, si par exemple il y a un remplaçant et que la première fois qu'il vient et que je sens qu'il a besoin d'une cette liste, je vais lui faire un semblant de cette liste, mais je sais pas. Non, maintenant, on fait plus vraiment de cette liste.
Ouais, au moins pour les tonalités par rapport à d'éventuels contrebassistes remplaçants ou quoi.
Oui, ça pour le coup, comme je te dis, un remplaçant qui joue pas souvent avec nous, là ça arrive de temps en temps à la Huchette. À la Huchette c'est facile parce que le bassiste joue à côté de moi, donc je peux lui faire les signes et lui dire de vive voix en fait, là c'est en sol, là c'est en mi bémol, machin, etc. Mais quand c'est un concert, oui, je lui donne souvent les 3-4 premiers morceaux et après il écoute, et souvent comme les mecs sont tout le temps des bons en fait, ils écoutent et ils mettent sur le truc, quoi. Ça va, mais ça fait plusieurs années que oui, on fait plus de cette liste maintenant.
Ouais. Si je comprends ce que tu disais à l'instant, Nirek, c'est par rapport au caveau de la Huchette d'une part et au concert d'autre part. Le caveau, c'est un petit peu particulier, c'est un endroit qui est le prétexte à la danse. Et en fait, vous êtes la bande son et c'est pas vraiment un concert, c'est pas vraiment les musiciens qu'on applaudit, c'est plutôt la musique qui va faire danser les gens.
oui et non, je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que c'est la musique, mais c'est aussi les musiciens, parce qu'en fait, là maintenant, en vérité, oui, à la base, c'est le temple du swing pour la danse. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de place pour danser au caveau de la Huchette, parce que c'est tout le temps rempli, en fait. C'est plein tout le temps, en fait, il y a plus de place, quoi, tellement il y a de monde. Et aussi, le fait que ça soit passé dans la La Land, l'enseigne, je pense que ça a vachement aidé. Mmh. Et l'autre point que je trouve très positif pour le caveau de la Huchette, c'est que il y a énormément, d'ailleurs je pense que c'est plus de 80% de leur clientèle aujourd'hui, de jeunes, de gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il y a quasiment que ça aujourd'hui au caveau de la Huchette, et beaucoup de touristes.
Ça c'est génial ce que tu dis, parce que ça m'amène à une question que j'avais prévu de te poser par rapport à la transmission justement. Alors toi-même, tu l'incarnes, hein. On va rappeler Nirek Mokhtar, né en 2002, tu auras 22 ans le 5 août prochain, si je compte bien, et là la transmission elle est toute assurée. Est-ce que tu connais d'autres musiciens, cette fois-ci pas forcément pianistes, mais en tout cas des gens de vraiment ta génération, tous ceux qui sont nés après 2000, et qui vont faire perdurer toutes ces musiques-là?
Alors, c'est une bonne question. Comme ça, là, je vois pas trop. En fait, si, j'en vois, mais c'est souvent des musiciens que je qualifie de musiciens, entre guillemets, amateurs, dans le sens où ils font ça pour s'amuser un peu, mais quelqu'un, je vois pas quelqu'un comme ça, j'ai pas en tout cas en tête.
D'accord, ouais, ouais.
Quelqu'un qui fait ça vraiment au plus profond de lui-même. Je connais plein de gens qui font ça pour s'amuser, mais vraiment qui prennent le truc au sérieux, non, j'en vois pas. Bon, ceci dit, prendre le truc au sérieux, c'est une manière de parler, parce que je pense que nous, on se prend jamais au sérieux.
Non, mais quand même, vous êtes des professionnels de la musique. On est d'accord que c'est pas un hobby. Tu fais rien d'autre, direct.
Non, je fais rien d'autre. Enfin, si, en fait.
Quand je dis tu fais rien d'autre, ça occupe toute vie, la musique. On est bien d'accord, mais je veux dire, t'as pas un 35 heures qui t'attend quelque part. C'est ça l'idée.
En fait, oui et non, parce que jusqu'à présent, j'ai quand même le boulot de démarcher, de gérer tout un groupe. Franchement, c'est pas facile tous les jours, en fait. Franchement, c'est cool, parce que j'ai des mecs qui sont super avec moi, etc. Mais en fait, c'est quand même, même s'il y a une relation amicale, tu gères tout, en fait. Il faut que tu gères tous les contrats, tu t'occupes de tous les transports, vérifier que les chambres d'hôtel soient bien prises, vérifier qu'il y ait bien le repas végétarien s'il faut, vérifier qu'il y ait bien tout le backline, vérifier les horaires de navette. Enfin, y a plein de trucs à gérer tout le temps, en fait, et pour moi, c'est un boulot à temps plein. Là, j'ai un peu relâché, mais...
Est-ce que ça veut dire, Nirek, Mokhtar, est-ce que ça veut dire que tu serais à la recherche d'un agent qui ferait toute cette partie-là du travail?
Je vais pas trop en parler, mais je vais en parler un petit peu quand même. En fait, j'ai eu une touche avec une grosse boîte de production récemment.
Oui.
En fait, j'ai envoyé, j'en parle, je vais essayer de pas en parler trop longtemps, parce qu'il n'y a rien de signé aujourd'hui, c'est qu'un contrat parole, donc voilà. Alors en fait, j'ai envoyé un album à plein de festivals et etc. Au mois de septembre, dont une grosse boîte de production et de booking de France, en fait, qui fait tourner les plus grands. La boîte, ça s'appelle Gérard Drouot Productions.
D'accord, bah oui.
Et en fait, je leur ai envoyé l'album et je me suis dit, a priori, ils vont peut-être à peine l'ouvrir, l'écouter. J'ai vraiment pas trop d'espoir, mais par chance, il y a un des bookers le responsable du booking, Boris, qui m'a renvoyé un mail en me disant écoute, on écoute ton album et franchement, c'est super, c'est cool de l'avoir envoyé. Il y a plus personne qui nous envoie des albums CD aujourd'hui, quoi, quasiment. Donc il l'a ouvert, il a écouté et il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de faire des premières parties dans des salles à Paris, mais des premières parties plutôt en trio.
D'accord.
En fait, j'ai un peu refusé, pas totalement, mais je me dis ça m'intéresse pas trop de jouer en trio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre mon groupe, donc vraiment jouer en quintette, parce que c'est comme ça que j'aime cette musique. Voir en sextet avec Gordon de temps en temps, ou avec plus que 5, quoi. Et il m'a dit ok, je le note, etc. Si je vois une fenêtre de tir, je te tiens au courant. Bref, au bout d'un mois, je vais aux nouvelles, il dit ouais, j'ai rien, etc. Puis ils ont vu qu'on joue au New Morning début décembre, donc il m'a renvoyé un mail. Il m'a dit est-ce que tu pourrais nous mettre quelques places pour la boîte, pour le chef des opérations, pour moi, pour quelqu'un du booking et quelqu'un de l'administration, par exemple.
Ouais.
Donc vu qu'ils connaissent Jean-Pierre Vignola, avec qui je suis en contact, Jean-Pierre Vignola qui a produit
l'album, voilà. Eh oui.
Avec Jazzy Blue Concert, ils ont produit New Morning aussi, donc j'aurais dit ouais, c'est Jean-Pierre qui fait ça, entre autres, ils le connaissaient. Et Jean-Pierre a dit bon, bah, on met les places pour eux, etc. Donc voilà, ils sont venus, ils ont adoré, etc. Et en même temps, dans leur mail, quand ils m'ont demandé les places, ils m'ont dit bon, on dit la vérité, on n'arrête pas de, d'écouter ton album. C'est vraiment un coup de cœur, ça arrive presque jamais. Parce que honnêtement, on a fait tourner Elton John, on fait Deep Purple, on n'a pas besoin de toi pour vivre, quoi, en gros.
Oui, bah, c'est clair. Bah, voilà. Alors, quand tu reçois une nouvelle pareille, quand tu vois que ces gens-là ont flashé vraiment sur sur ta musique,
c'est super, mais c'est quand même très stressant parce que ça fait maintenant vraiment plusieurs années que je m'occupe de tout seul, et du coup, t'as un côté où une excitation super parce que tu dis, ça se trouve ces gens-là, ils vont faire décoller ta carrière et ça y est, tu passes le capot dessus, quoi.
Mmh.
Et d'un côté, tu te dis bon, en fait, tu files un peu ton bébé à quelqu'un que tu connais pas vraiment, donc c'est super, mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir donné tout ce que j'ai construit en dehors de la musique en soi, parce que j'espère toujours jouer. J'aurais dit bon bah, eux ils m'ont dit en fait, si ça te branche, bon, faut qu'on en parle à notre PDG, mais s'il est ok, on s'occupe de toi, on fait un essai, etc. Ils m'ont dit au mieux ça marche et c'est cool. Au pire si ça marche pas, au moins les gens ils connaîtront ton nom grâce à nous et voilà.
Ah bah oui, bah voilà, mais je crois qu'effectivement, pourquoi pas être légèrement réticent justement par rapport à ce genre de nouvelles, mais aussi peut-être excité et puis pourquoi pas en profiter, il faut foncer je pense, non?
Exactement, mais ce qui me fait bizarre c'est que du coup depuis le début décembre j'ai juste bouclé tous les contrats que j'avais.
Ouais.
Mais j'ai le deal qu'on a c'est que jusqu'à le début du printemps en fait je m'occupe plus de rien pour mon groupe. Donc là ça fait 2 mois que je m'occupe de très peu de choses et c'est vrai que moi que tu quand même qui est dans longue, j'ai envie de dire c'est quand même bizarre de.
Ouais, je comprends ton point de vue effectivement. Mais là, ça veut dire déléguer et puis donner une exclusivité, c'est-à-dire ne plus pouvoir tellement prendre des plans comme ça à droite à gauche.
Exactement, mais pour l'instant, voilà, je redis, ça reste un été, y a rien de sûr, mais visiblement, ils ont l'air très confiants de ce que j'ai cru comprendre.
Ben écoute, on va croiser les doigts pour toi, direct, et puis ça m'emmène directement à l'avant-dernière question, celle des projets. Donc on a compris qu'il va se passer des choses importantes pour toi et ton groupe en 2024. Et puis la question finale, c'est si je te laisse l'antenne pendant 30 secondes, voilà, si les 30 prochaines secondes sont pour toi, Nirek Mokar, tu t'adresses directement aux auditeurs de Sweet Home Chicago et du 666. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire en guise de résumé là, de toute cette interview?
Que ça m'a fait très plaisir de participer à cette interview. Soyez heureux dans la vie et écoutez l'album Back to Basics.
Merci, voilà, quelque chose de positif pour l'avenir. L'album s'appelle Back to Basics. Il est signé Nirek Mokar et les Boogie Messengers featuring Sax Gordon. Et on peut le trouver, bien sûr, puisqu'il est distribué par Soka Disc et produit par Black & Blue. Vous surveillez, bien sûr, toutes les dates de Nirek Mokar. On n'a pas fini d'en entendre parler. Encore merci pour cette interview, Nirek, au cours de laquelle tu t'es livré avec beaucoup de générosité, beaucoup de sincérité. Je t'en remercie et puis à bientôt sur la route du blues, du jazz, du boogie, quoi.
Merci à toi, Marc.
À bientôt, Nirek. Au revoir. Merci. Merci.
Merci encore à Nirek Mokar pour cette belle interview ponctuée de quelques extraits de Back to Basics, l'album qu'il partage avec Sax Gordon et bien sûr Stan Oubar Pacha, Claude Bro, Guillaume Nouveau et Nicolas Duboucher. On a pu écouter Nini Special, What I Drink, Hot Bread, Twist à la Huchette, Myra et on va terminer avec Besco Boogie. C'était Besco Boogie de Nirek Mokar and the Boogie Messengers. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, Jacques Picard et Fred Chapelier. Salut, bye bye.
Same old place, sweet home, Chicago.